Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Bible contre Darwin, une affaire extraordinaire qui a divisé l'Amérique en 1925, le procès du singe. Il est interdit à tout enseignant d'école publique d'enseigner une théorie qui nie l'histoire de la création divine telle qu'elle est révélée dans la Bible. Loi du Tennessee, 13 mars 1925. L'affaire avait déjà fait tant de bruit que le 10 juillet 1925, les journalistes de toutes les radios et de tous les grands quotidiens des États-Unis s'étaient donné rendez-vous dans une petite ville du Tennessee pour y assister à l'ouverture d'un des procès les plus sensationnels de l'histoire, le procès du singe. Jamais les habitants de Dayton n'avaient vu arriver tant de monde, des chrétiens fondamentalistes, des libres penseurs ou tout simplement des curieux qui venaient de partout pour entendre s'affronter les partisans et les adversaires d'un petit professeur de sciences naturelles qui se demandait ce jour-là de quoi il pouvait être coupable. Quelques semaines plus tôt, il n'avait fait que son métier en enseignant à ses élèves les théories de Darwin sur l'évolution des espèces. Mais il n'en fallait pas plus pour qu'au nom d'une loi votée 4 mois plus tôt, John Scopes soit accusé de contredire la Bible, de pervertir la jeunesse et de saper les fondements de la société américaine.
Pour notre cours de sciences naturelles, nous poursuivrons notre discussion de la théorie de Darwin sur l'origine de l'homme. Ainsi que je l'ai dit hier, Darwin démontre que l'homme a évolué depuis un ordre inférieur d'animaux, et qu'il est parti du simple protozoaire, ici, dans l'océan, qu'il est devenu un singe, et finalement un homme. Et parmi vous, certains vont peut-être dire que c'est pourquoi pas mal de gens font des singeries. Ce que M. Charles Darwin a voulu nous raconter à sa façon.
Vous êtes accusé d'avoir violé l'acte public 110, volume 37, article 1627 du Code de cet État, selon lequel il est interdit à tout instituteur public d'enseigner une théorie de la création qui s'oppose à celle de la Bible, et d'enseigner ainsi que l'homme descend tout droit d'une espèce inférieure d'animaux. Il est de mon devoir de vous arrêter.
Gordon Golding, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes américain et auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Complexes, Le procès du singe. Alors, c'est l'histoire d'une affaire qui est peu connue en France, mais qui a très profondément divisé votre pays en 1925, le procès d'un professeur d'histoire, de biologie, qui était accusé d'avoir enseigné les théories de Darwin à ses élèves. Alors, on est étonné en France que un petit professeur dans une toute petite ville des États-Unis ait pu provoquer tant d'émotions. Pour quelle raison est-ce que c'est devenu un des plus grands procès de l'histoire des États-Unis ?
Eh bien, à l'époque, il y avait toute une campagne contre l'enseignement de l'évolution qui faisait partie d'un mouvement plus vaste contre ce qu'on appelait le modernisme. Aux États-Unis, dans les années 20, comme en Europe d'ailleurs, c'était un moment de bouleversement. Et il y avait beaucoup de gens qui cherchaient dans les certitudes de la religion traditionnelle, des repères dans un monde où il n'y en avait pas. Donc le mouvement était, tout le monde était intéressé par ce procès parce que c'était un moment d'affrontement entre l'ancien et le moderne, entre la religion et la science, et en plus entre deux grands géants du barreau aux États-Unis.
Entre l'évolutionnisme, donc, et ce qu'on appelle aussi le créationnisme, l'évolutionnisme, donc, qui avec Darwin affirme que l'homme, le créationnisme, qui avec les fondamentalistes des chrétiens américains, justement, considère que l'homme, au fond, n'a pas changé depuis sa création, par Dieu, tel que la Bible l'a enseigné. Il faut dire que la Bible, c'est quelque chose de très important aux États-Unis, plus peut-être qu'ailleurs dans d'autres pays chrétiens.
C'est extrêmement important. La Bible, d'abord, c'est un pays protestant. Les protestants sont beaucoup plus portés sur la Bible que les catholiques, par exemple, ou tout au moins autrefois. Et d'autant plus que les Américains, du début, les colons, ils ont trouvé l'Amérique dans la Bible. C'est-à-dire que leur lecture de la Bible, et notamment du livre de l'Apocalypse, ils voyaient l'Amérique comme la Nouvelle Jérusalem, comme le pays béni de Dieu.
Alors, ils sont assez forts au début du XXe siècle pour faire voter une loi qui a été proposée par le représentant du Tennessee au Congrès, John Butler, en 1925. Alors, c'est une loi qui interdit à ce que, dans l'enseignement public, on enseigne le darwinisme, tout simplement.
Oui, mais le Tennessee n'était pas le seul. Hein. Il y avait une douzaine d'États qui ont voté des lois similaires. Partout, d'ailleurs, aux États-Unis, pas seulement dans le Sud. C'était tout un mouvement pour essayer de donner des repères, pour essayer de marquer une victoire pour la tradition face à la modernité. Mais c'était une loi qui était vite contestée, par exemple dans le Tennessee.
Alors, cette loi a été votée à la demande de John Butler, justement, une loi en vertu de laquelle, donc, John Scopes, ce petit professeur de Dayton, est jugé par le tribunal de cette ville, qui le 10 juillet, donc, 1925, allait devenir, pendant quelques semaines, la ville la plus célèbre des États-Unis.
Alors, je décide que le sort de la science va se décider pour des centaines de générations.
Le procès du singe. Le monde entier se fiche de nous.
Une minute. Les gens viendront de partout. Il y aura plus de monde que sur la grande place de Chattanooga. Cette foule va vouloir des chambres ou coucher.
Et de quoi se nourrir?
Si nous remercions le Seigneur, disons une prière.
Et c'était l'ouverture de ce qu'on appelait le procès du singe, le 10 juillet 1925, un autre extrait de l'excellent film de Stanley Kramer qui, en 1960, avait été nommé 4 fois aux Oscars et qui est très fidèle à ce qui s'est passé à Dayton, Gordon Golding, en 1925. Une ville, on l'a entendu dans cet extrait, qui n'est pas mécontente de devenir un peu le centre des États-Unis, au moins pendant quelques semaines.
Pas du tout. C'était une ville comme des milliers aux États-Unis, une petite ville qui était très fière de sa récolte de fraises, qui vivait au fond bien dans la modernité, hein. C'était des gens, ils avaient des voitures, des radios, les filles portaient les jupes courtes, les cheveux courts. Donc c'était une ville qui, à l'époque, voulait se faire un peu de publicité et un peu de business aussi, pourquoi pas.
Et alors qu'il voit justement arriver des quantités de journalistes d'abord, hein. Je crois que vous citez 200 journalistes, Gordon Golding, qui sont arrivés là, de tous les États-Unis. Je crois même qu'il y avait des correspondants étrangers qui sont venus et qui allaient faire de cette affaire une affaire, sinon internationale, du moins nationale. Toute l'Amérique était au courant grâce aux progrès, notamment réalisés à l'époque dans les communications.
Tout à fait. C'était le premier procès qui était retransmis en direct par la radio. Les gens pouvaient suivre partout aux États-Unis les débats parce que pour la première fois, il y avait la possibilité de transmettre le signal d'un côté à l'autre. Et c'était une toute nouveauté. Les gens, ils restaient accrochés à ces débats, d'autant plus que les gens étaient très intéressés par le sujet.
Alors ce sujet, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas du tout l'accusation, ce qui voulait traduire le professeur de biologie devant le tribunal, mais c'est ses défenseurs qui ont vraiment voulu ce procès, notamment une organisation dont vous parlez, Gordon Golding, qui s'appelait l'ACLU, hein, l'Union américaine pour les libertés civiques, et c'est elle qui voulait le procès.
Oui, bien sûr, parce que vous savez, aux États-Unis, on n'a pas de conseil constitutionnel. Donc, pour déterminer si une loi est conforme à la Constitution, il faut la porter devant un tribunal. Il faut qu'un tribunal tranche pour établir la jurisprudence. Pour ça, il faut une victime pour se faire arrêter. Scopes était d'accord pour le faire, ACLU était d'accord surtout pour le financer, notamment en embauchant Darrow et toute une équipe d'avocats. Et depuis lors, la ACLU est très très connue aux États-Unis pour défendre les droits civiques, défendant aussi bien les nazis dans l'Illinois que les Noirs dans l'Alabama.
Et cela à l'époque contre les défenseurs de la Bible et du créationnisme, défendus par une personnalité politique et religieuse très célèbre à l'époque, William Jennings Bryan, qui sera le procureur du procès, chargé de l'accusation, et qui arrive à Dayton le 7 juillet 1925.
Vous savez ce qui m'a amené? Il
Il ne s'agit pas uniquement d'engager le procès d'un homme jeune qui a porté atteinte à la parole révélée. Je suis venu ici parce que ce qui s'est passé dans le collège de votre ville a déclenché l'attaque perfide des grandes cités du Nord. Cette guerre, nous ne la cherchons pas. Nous restons des gens simples. Nous ne cherchons qu'à vivre dans la paix, à chérir ce que nous aimons, à enseigner à nos enfants les voies toujours droites du Seigneur. Mais que leur enseigneraient-ils, eux, les idolâtres, tous ces prêtres de l'évolution? Que les inciterait-il à faire? Il leur ferait mesurer la distance entre les étoiles et oublier celui qui les tient dans sa droite. Ils se sont fourvoyés. Je vous le dis à tous, si par malheur l'homme pensait qu'il descendait bête, il demeurerait une bête. Ainsi que le jeune loup se tourne contre le vieux, ces innocents petits, corrompus et dépourvus d'espoir, se retourneraient contre leur père. Et nous retomberions au temps de Sodome et Gomorre. Nous ici, à Hillsboro, avons l'occasion d'abattre non seulement le disciple du diable, mais le diable lui-même.
Et c'était un autre extrait du film de Stanley Kramer, l'arrivée de William Bryan à Dayton, hein, qui s'appelait Hillsboro, je crois, dans ce film. Bryan, qui était, dites-vous, peut-être le fondamentaliste le plus célèbre des États-Unis à l'époque, Gordon Golden.
Il était très célèbre, pas seulement comme fondamentaliste, il défendait les fondamentalistes, mais Bryan était surtout très connu comme l'ancien candidat à la présidence et comme un défenseur de ce qu'on appelait aujourd'hui l'Amérique d'en bas. C'était le défenseur de l'homme de la rue, qui était, c'était un homme de gauche, très, très engagé dans
démocrate,
les luttes.
Démocrate, il avait été démocrate, ministre sous Wilson, du président Wilson. Oui.
Et pour lui, il voyait dans le darwinisme, là l'extrait montre bien son idée, même si c'est présenté dans un langage très biblique et très, très religieux. Bryan voyait le darwinisme comme une vraie menace. C'était allemand. C'était des gens qui des eugénistes par exemple qui luttaient contre les autres. C'était le monde du capitalisme où les pauvres étaient systématiquement écrasés par les plus forts. C'était quelqu'un qui mettait tout ça ensemble dans sa tête, à la fois la religion et aussi la politique. Et c'est pour ça qu'il était contre l'enseignement de l'évolution.
Et accueilli plutôt triomphalement dans cette ville. Hein. Il y avait des groupes de bigots, de bigotes, qu'on appelait, je crois, les Holy Rollers, qui les accueillaient en chantant, justement. Et alors, dans une chaleur accablante. Ça aussi, c'est un personnage, si je puis dire, du film et de ce qui s'est passé vraiment à Dayton en 1925, en juillet. Il faisait une chaleur terrible. Au point que les avocats, que tout le monde d'ailleurs, avait retiré sa veste, tout le monde était en bretelles, je crois, au procès.
On oublie, oui, tout à fait. On oublie aujourd'hui, parce que nous avons ce miracle de la science qui est l'air conditionné, mais à l'époque, en 1925, bien sûr, au mois de juillet, il fait entre 100 et 110 degrés dans le Tennessee, très moite, très humide. Et donc, ça faisait partie de l'ambiance du procès.
Alors, Bryan, très chaleureusement accueilli, très habile aussi, parce que c'est donc le représentant de l'accusation, c'est lui qui demande une peine, évidemment, pour ce professeur de biologie, pour Scopes, mais très habile parce qu'il ne veut pas plaider sur le fond. Il veut simplement plaider sur le fait que, l'État a le droit d'intervenir dans l'enseignement public. En fait, l'argument de ces gens-là, qui sont contre l'enseignement de Darwin dans l'enseignement public, c'est, après tout, c'est le contribuable qui paye, et il ne paye pas pour qu'on enseigne à ses enfants des théories qu'il pourrait réfuter.
Tout à fait. Ça, c'est un grand standard aux États-Unis, qui est toujours aussi vrai aujourd'hui. On est très à cheval sur ce qu'on appelle « states' rights », c'est-à-dire le droit des États à l'intérieur de la fédération de se disposer d'eux-mêmes, de faire leurs propres lois, et même à l'intérieur de ces droits-là, chaque communauté a le droit de s'organiser comme elle veut. Et même aujourd'hui, c'est exactement la même argumentation qu'on trouve aujourd'hui dans les campagnes contre l'évolution.
Alors, en fait, en face d'un homme comme Bryan, très célèbre, très connu, très habile, bon orateur, il fallait aussi quelqu'un à pouvoir tenir le coup. Et alors là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Gordon Golding, on le retrouve dans votre livre. C'est vraiment un des plus célèbres avocats de l'époque, qui arrive d'ailleurs en même temps que Bryan, l'avocat de la défense, Hans Darrow. Hein. Lui aussi, c'est un sacré personnage.
Oui, tout à fait. C'est un... Lui aussi, à l'époque, était considéré comme un homme de gauche aussi, qui avait défendu les syndicalistes, et qui venait de sauver de la chaise électrique deux jeunes gens qui ont tué un jeune garçon de 100 fois, comme ça, parce que, selon leur propre dire, eux, c'était des êtres supérieurs, et le garçon méritait de mourir. Donc, il était auréolé de ce controverse, et il arrive pour défendre de nouveau une théorie qui disait que c'est les forts qui survivent. Et, mais c'était
le darwinisme.
Le darwinisme, oui. C'était un homme extraordinaire, qui est brillant, un avocat, qui avait des envolées lyriques extraordinaire.
Qui d'ailleurs, dès l'ouverture du procès, commence à considérer qu'il s'ouvre dans des conditions qui ne sont pas normales et qui proteste contre le fait qu'on exigeait la lecture de la Bible à l'ouverture de chaque séance, je crois.
Oui, tout à fait. Ben, ça, plus la prière au début, plus... Mais ça, c'était des... Bon, ça, c'était un peu des manœuvres d'avocat.
Alors lui, contrairement à Brian, il veut plaider sur le fond, c'est-à-dire défendre le darwinisme et le droit qu'a son client, John Scopes, de l'enseigner, même s'il contredit la Bible.
Je sais que mon client est déjà reconnu coupable. Essayez de comprendre que si vous attaquez la loi de l'évolution et faites un crime de l'enseigner en public à l'école, demain vous ferez peut-être un crime d'enseigner en privé cette loi. Et que demain, peut-être, en faire lecture sera un crime. Et un jour, vous finirez par tout supprimer, tout. Et ce jour-là, vous dresserez les catholiques contre les protestants. Les protestants contre les protestants. Et ferez tout pour imposer votre religion à l'esprit humain. Si vous le faites une fois, vous le ferez une autre. Parce que le fanatisme et l'ignorance ne s'avouent pas vaincus. Et un jour, votre honneur, vos bannières au vent et vos tambours battants, vous ferez tous marche arrière. Marche arrière, et nous reconduirez au temps glorieux du XVIe siècle, où les bigots brûlaient l'homme qui osait apporter la lumière et l'intelligence à ses semblables.
Et c'était mot pour mot ce qu'a dit Clarence Darrow, entre autres, dans ce procès du Saint. Extraordinaire, cette plaidoirie. Elle a même été applaudie, je crois, par l'accusation.
Oui, oui, tout à fait, tout le monde. Bah, vous savez, dans le Sud, les gens aiment bien une bonne prêche. Hein.
Parce que le doyen du barreau du comté disait « c'est le plus grand discours que j'ai jamais entendu de ma vie ». Ce qui est amusant, ce qui est curieux, Gordon Golding, c'est qu'on a le sentiment, en vous lisant, en voyant ce film aussi qui est extraordinaire, on a le sentiment qu'il y a certes beaucoup de tension, mais ce n'est pas un procès aussi lourd, aussi pesant, parce qu'il y a un grand respect, au fond, on a l'impression, entre l'accusation et la défense, c'est pas le maccartisme, c'est pas un procès stalinien, même s'il est très tendu.
Oui, c'est vrai, dans le procès. Il y avait d'autres, pendant la campagne anti-révolutionniste dans les années 20, il y avait quand même des victimes, des gens qui ont perdu leur emploi, notamment la sœur de Scopes a perdu son emploi parce qu'elle soutenait son frère, d'autres gens en Caroline du Nord, par exemple. Donc il y avait des victimes, mais ce n'était quand même pas c'était pas comme le maccartisme, hein. C'était beaucoup moins virulent. Et je pense que la raison...
C'était un débat d'idées, en fait.
C'était un débat d'idées. Et je pense surtout la raison, c'est que chaque Américain, enfin presque chaque Américain, porte les deux aspects. Comme chaque être humain, nous sommes tous portés vers l'irrationnel et aussi vers le rationnel. Donc les gens, ils voyaient bien les deux côtés des choses. Et donc il y avait moins, je pense, que cette virulence qu'on trouve plus tard.
Alors Brian, l'accusateur, cite comme témoin des élèves de Scopes qui expliquent comment on leur enseigne le darwinisme, alors ce qui semble être à charge, justement, du pauvre professeur. Darrow, lui, l'avocat du professeur, demande à convoquer des scientifiques, parce que lui veut plaider sur le fond, donc des gens qui défendent bien sûr l'idée de l'évolution, car l'ensemble des scientifiques américains évidemment s'étaient ralliés à cela. Alors on lui refuse, si bien que le 20 juillet 1925, Darrow provoque un coup de théâtre en convoquant qui ? Eh bien il convoque Brian, il convoque le procureur, c'est-à-dire l'accusateur, son adversaire. C'est un peu comme si en France, un avocat convoquait l'avocat général comme témoin de la défense. Ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé.
Oui, ben, ils ont décidé que s'ils ne pouvaient pas discuter la théorie de l'évolution, ils allaient discuter de la Bible. Ouais. Et donc, ils ont cité Brian comme expert de la Bible. Et Brian, malheureusement, ne pouvait pas échapper au piège. Il voyait bien ce qu'il allait arriver. Mais il n'arrivait pas à s'échapper. Et donc, il y avait un grand échange.
Oui, parce que Darrow va mettre en contradiction va mettre en évidence les contradictions de Brian, de la Bible. Hein. Pourtant Brian connaissait bien. Et alors il lui pose la question, Darrow, Monsieur Brian, la Bible dit que tous les êtres vivants qui n'avaient pas trouvé de place sur l'arche de Noé furent noyés dans le déluge. Le croyez-vous ? Oui, répond Brian. Même les poissons, dit à ce moment-là Darrow, c'est assez extraordinaire. Puis alors, il y en a plein d'autres comme ça. À un moment donné, croyez-vous, demande Darrow, que le soleil ne fut créé que le quatrième jour ? Oui, répond Brian. Comment expliquez-vous alors l'existence de jours de 24 heures avant que le soleil n'apparaisse ? Il y en a une quantité d'autres. Il y a aussi l'histoire de Caïn. Darrow demande à Brian, avez-vous jamais su où Caïn avait trouvé sa femme ? Alors non, monsieur, répond Brian, je laisse aux agnostiques le soin de la retrouver. La Bible dit qu'Adam et sa famille étaient seuls sur terre, mais Caïn a quand même trouvé une femme. Vous ne savez pas d'où elle sortait ? Je ne saurais pas le dire, répond Brian. Vous ne sauriez pas le dire ? Vous ne vous en êtes jamais posé la question ? Ça ne m'a jamais gêné, répond Brian. Et effectivement, il est complètement confondu devant la force de Darrow, de l'avocat de la défense, qui le met en contradiction avec une Bible que pourtant Brian connaît par cœur. C'était un grand moment du procès, ça. Alors, ça n'empêche pas, même si Brian est complètement déstabilisé, si l'accusation est déstabilisée, ça n'empêche pas justement, même si Darrow retourne le public de son côté, ça n'empêche pas que le lendemain, 21 juillet 1925, son client était condamné, mais à une peine symbolique. Un dernier extrait du procès du singe, dans lequel le professeur de biologie, John Scopes, s'appelle Cates.
Selon le verdict du jury, à l'unanimité, Bertram Cates est reconnu coupable au regard de la loi. Cette infraction entraîne soit une peine d'amende, soit une peine d'emprisonnement. Mais il n'y a jamais eu auparavant de violation de ces articles. Et aucun précédent ne nous guide pour appliquer la sentence. La Cour estime convenable de condamner Bertram Cates à payer une amende de $150.
Votre honneur, est-ce que votre honneur a dit $150 ?
Exact, maître.
Voyons, les conséquences seraient titanesques. La Cour devrait bien se montrer autrement sévère.
Je protège.
Et faire un exemple de l'homme qui a péché. Elle doit le punir.
Je déclare que l'audience est levée.
Alors, tout ce procès qui a mobilisé l'opinion et les médias de tous les États-Unis, tout ça pour, pendant une semaine, tout ça pour une amende de $150. Ça paraît dérisoire, Gordon Golding, au regard de l'importance qu'il a pu avoir.
Peut-être bien, mais comme le juge l'a très bien dit, hein, il y avait l'effraction, enfin la violation de la loi, c'était d'enseigner l'évolution. Il l'a fait, donc il est condamné. Pour ça.
Je crois que la peine maximum, c'est $500, en fait.
Oui.
Mais alors, justement, on a du mal à comprendre. Est-ce que ce procès, d'abord, il y a eu des conséquences. Les adversaires de Darwin, les créationnistes, n'ont pas désarmé. Ils ont continué pendant longtemps.
Oui, bien sûr. Tout au long des années 40, 50, 60, même plus tard que l'année dernière, aux États-Unis, les créationnistes continuent à faire campagne pour... Non plus pour interdire l'évolution, ça, l'enseignement de l'évolution, mais pour essayer de faire passer leurs idées au même titre, ou au moins de dire que l'évolution, il y a des doutes sur l'évolution, et qu'il y a une autre façon de voir le monde, de concevoir la création du monde. Et ils ont quelques succès, mais moins qu'espérés.
C'est-à-dire qu'au lieu de nier le darwinisme, ils disent c'est très bien, il y a eu effectivement une évolution, mais elle est d'origine divine. D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça l'intelligent design,
voilà,
c'est ça.
C'est ça.
Le dessin intelligent, ouais. Et c'est la forme que prend aujourd'hui le combat des créationnistes, ouais. des fondamentalistes qui existent encore aux États-Unis.
En fait, c'est un retour un peu au XVIIIe siècle. Je crois que c'est Voltaire qui parlait de l'horlogier de l'univers. Ouais. Et c'est un peu ça, c'est l'idée qu'il y a un ingénieur en chef, qu'il y a des choses trop compliquées pour expliquer uniquement par la science. Et ils ont un peu de succès parce que les États-Unis trouvent que les Américains trouvent que c'est bien, c'est fair play. On va laisser parler les fondamentalistes aussi. Après tout, ils payent leurs impôts aussi.
Est-ce que la loi Butler, qui interdisait donc l'enseignement du darwinisme dans, dans les écoles publiques, quand est-ce qu'elle a disparu?
En 68, je crois, ça a été. Mais c'était un oubli, hein, c'était tombé en désuétude depuis longtemps. Mais ça a été, je pense, évoqué en 68.
Est-ce que les Américains connaissent encore, se souviennent encore de ce procès, dont en France, il faut bien le dire, on a rarement entendu parler?
Bien entendu, c'est un cliché. C'est, tout de suite, quand on évoque la théorie de l'évolution aux États-Unis, on pense le procès Scopes.
Est-ce que ça correspond, vous le dites souvent, au fond, les créationnistes, les gens attachés à la lecture de la Bible, c'est plutôt l'Amérique profonde, c'est plutôt la campagne, l'Amérique rurale, contre la ville, au fond, contre les grandes villes du Nord? À l'époque, c'était le cas, non?
À l'époque, plus ou moins, oui. Mais enfin, vous savez, aujourd'hui, hein, y a quelqu'un à la Maison-Blanche qui trouve qu'il faut enseigner l'intelligent design, hein, qui soutient ça. Donc, ce n'est plus le cas.
C'est pas fini.
Non, c'est pas fini.
Alors, d'où l'actualité de ce procès du singe, qu'il faut lire dans votre livre pour en savoir plus. Le procès du singe, la Bible contre Darwin, qui vient de paraître aux éditions Complexes, est signé par mon invité d'aujourd'hui, Gordon Golding. Vous avez pu entendre des extraits du film Le procès du singe de Stanley Kramer, avec entre autres Spencer Tracy dans le rôle de l'avocat, et Gene Kelly aussi, qu'on voit dans ce film, dans le rôle d'un journaliste, un film disponible en DVD chez MGM Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Arnstam, Thomas Robin et Valentin Vaner, documentation et archives RFI, Claire Tesser, Claire Destacan, Mathieu Ménossi et Karine Hardy, une réalisation de Anne Kobilac. Il n'y avait pas d'archives RFI d'ailleurs. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'épidémie la plus meurtrière qu'ait jamais connue l'humanité, la peste.